Je vais tout de suite vous présenter nos trois invités. Nous entendrons et chacun d'entre eux parlera pendant 20 minutes environ, Maître Mélanie Bourassa-Forcier et Monsieur Hubert Doucet, mais dans un premier temps, le Dr Pavel Hamet. Alors, Dr Hamet, je m'arrête là et je vous invite à nous faire cette présentation sur la médecine génomique.
Donc, on a des solutions à chercher. J'ai parlé avec plusieurs ministres de santé que j'ai pu rencontrer dans les dernières décennies. Ce qu'ils nous demandent, trouvez-nous des nouvelles solutions, y compris la génétique, y compris la médecine personnalisée, mais dites-nous qu'est-ce qu'on peut abandonner. Parce qu'on ne peut pas vraiment ajouter les coûts à la santé. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et moi, je pense que la génomique pourrait nous en apporter certaines de ces solutions. Ce qui est clair, c'est que cette dépense en santé qui continue à augmenter de façon exponentielle, et ce que vous voyez ici en gris dans le coin droit pour vous, c'est le coût des médicaments. Même si on va économiser un peu, même si on veut de nouveaux médicaments, on ne peut pas seulement utiliser des génériques qui sont les copies de quelque chose parce qu'on n'aurait pas de quoi copier si on ne fait pas de nouveaux médicaments. Et il y a encore à peu près 50% des problèmes en médecine qui sont non résolus. On appelle ça les unmet needs, les besoins qui ne sont pas satisfaits. On n'a pas encore traitement pour la rétinopathie diabétique. On n'a pas traitement pour la neuropathie diabétique. Vous savez, le diabète amène une complication dans les membres inférieurs. Ça fait extrêmement mal. Tout ce qu'on leur donne, c'est des narcotiques. On les envoie chez eux. Ça n'a pas de sens. Il faut y penser. On n'a pas de bons traitements pour la plupart des cancers. On a fait des progrès énormes. Cancer du sein, 85% de guérison, mais 15% reste. Mais mélanome, 20% de guérison. Mais encore. Donc, il y en a encore beaucoup de leucémie infantile, etc. Il y en a encore beaucoup, beaucoup des endroits où on a besoin de développer du nouveau. Est-ce que ça va seulement ajouter au coût de la santé? Est-ce qu'il y en a des dépenses en santé qui sont gaspillées? Et ça, je crois que la génétique va nous démontrer, ou nous demande déjà, qu'il y en a une partie très significative de ce que nous investissons dans nos traitements et qu'une chose gaspillée. C'est parce que ce qu'on a développé dans le passé, c'est la médecine pour tous. On développe un médicament et on le teste sur 30 000 personnes. Si ça marche sur 30 000 personnes, on le donne à tout le monde. C'est la loi. Et c'est comme ça partout. Mais on ne s'occupe pas du fait que parmi ces 30 000 personnes, peut-être ça n'a pas marché chez tout le monde. Dans le moment, on fonctionne par la moyenne. La santé publique, la médecine fonctionne. Si ça baisse la tension artérielle en moyenne, c'est un médicament pour l'hypertension de tout le monde. Et quand vous regardez des petits détails, ici le petit bonhomme jaune et le petit bonhomme gris, vous voyez des maladies les plus fréquentes, qui est vraiment le trois quarts de notre budget, mais il y en a des gens chez qui ça ne marche pas. Et en moyenne, c'est 50%. Dans 50% des patients à qui je prescris un médicament, mon médicament ne va pas fonctionner. Heureusement, on va avoir un autre médicament qui va fonctionner chez la personne chez qui le premier médicament ne fonctionnait pas. Mais ce qu'on fait présentement dans la médecine, parce qu'on ne sait pas lequel médicament fonctionne, on ajoute le deuxième médicament, on ajoute le troisième médicament, etc. La moyenne des patients avec l'hypertension, ce qui est 25% de la population, prennent 3,2 médicaments. La moyenne des diabétiques prennent 4 médicaments. Parmi les 4, il y a peut-être 2 qui ne marchent pas. Je ne sais pas lesquels. Et je vais les donner pour les prochaines 40 ans. En moyenne, si c'est la moyenne qui ne fonctionne pas, je gaspille moitié de mon budget de médicaments. Et si c'est le numéro 1 de mon budget, bien, ça coûte cher. Donc, est-ce qu'on est capable d'avancer? Est-ce qu'on est capable de comprendre pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas des mauvais médicaments, c'est parce qu'on n'est pas tous pareils. On a des enzymes différentes pour métaboliser les médicaments, pour les digérer, pour les rentrer dans la cellule, pour ce qu'ils fonctionnent. Eh bien, c'est ça la génétique qui détermine ça. En partie aussi notre environnement, mais pour une bonne partie, c'est la génétique. Est-ce qu'on peut avancer dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut dire que Notre code génétique devrait être, entre autres, utilisé pour savoir comment nous devrions traiter et quelle sorte de prévention on devrait faire chez chacun. Tout ça, ça commençait par, je suis d'origine tchèque, un des compatriotes les plus célèbres, c'est M. Mendel. M. Mendel a découvert les lois génétiques en croisant des haricots dans la cour de son cloître. Et c'est les lois mendéliennes qui sont devenues extrêmement célèbres par la suite. Mais c'est des maladies monogéniques. Parce que cette découverte de début de siècle dernier, jusqu'aux années 50-60, c'était des maladies rares, à peu près 5% de toutes les maladies, qui sont causées par un gène qui produit un mauvais produit et que ça donne la maladie. Vous les connaissez, fibrose kystique, maladie Huntington, différentes maladies dégénératives musculaires, sont causées par un gène. C'est en général les maladies sévères et les maladies commencent relativement tôt dans la vie. Mais ce n'est pas la majeure partie des maladies. La majeure partie des maladies, comme hypertension, des problèmes de cholestérol, la plupart des cancers, sont causés par un grand nombre de gènes. Un grand nombre de gènes qui, tout seul, ne donnent pas la maladie, ils la donnent en interaction avec l'environnement. Et c'est cette complexité d'interaction de nombreux gènes avec l'environnement que nous sommes en train de solutionner présentement. Tout ça, c'est basé sur le fait que nous sommes tous pareils, même si ça ne paraît pas nécessairement à premier coup de vue. Nous partageons 99,99 en fait, de séquences de nos DNA. Parmi toutes nos séquences-là, la plupart sont les mêmes, mais il y en a qui sont différentes. Parmi les 3 milliards de composantes génétiques que nous avons, 3 milliards, 3 millions sont différents ou 5 millions sont différents et que ça compte. Et ces quelques millions, nous sommes présentement capables de les détecter. Avec une précision à 99,9999% de précision. La partie technologique est solutionnée. Mais comment c'est causal? Qu'est-ce que ça prend de plus? C'est là que nous sommes présentement. C'est ça le défi actuel. Techniquement, c'est simple. Ça, c'est ma chef technicienne. Ce qu'elle a dans sa main droite, c'est un chip. C'est une puce bioinformatique. Et cette puce-là a présentement 1 million de signaux génétiques. Ces signaux génétiques, c'est après une micro-goutte de notre DNA qui est extrait, qui est déposé dessus après différents processus chimiques. Et ce que ça donne, c'est ça. Il y a un tas de couleurs, 1 million d'informations par individu. Et c'est ce que nous avons présentement. Électroniquement ou bioinformatiquement, nous transformons ce 1 million d'informations en 10 millions d'informations. Donc, nous avons présentement dans notre labo et partout au monde, dans ce genre de labo, nous avons 10 millions d'informations par individu. C'est déjà pas facile de digérer. Et comment vous liez ça avec le fait qu'est-ce que la personne mange, qu'est-ce qu'il fait comme exercice, qu'est-ce qu'il fait tous ces modificateurs dans sa vie? Et c'est cette complexité que nous abordons présentement. Ça prend certainement, à peu près présentement, ça nous prend 3 fois plus de temps d'analyse informatique que d'analyse biochimique. La partie biochimique, la cuisine biochimique, c'est en gros solutionné. La partie informatique est en train de se développer. Donc, il y a peu d'analyses qui sont vraiment séparées pour les gènes et l'environnement. En général, on pense que c'est un ou l'autre, mais non. Pour le corps, pour la cellule, on s'en fout si c'est un ou l'autre. C'est vraiment les deux ensemble. C'est la héritabilité ou épidémiologie qui manque, ou c'est simplement les limites de notre connaissance actuelle. Présentement, le criblage global de l'humain se fait critiquer, ça n'a rien donné. L'histoire familiale s'est pris fort, mais l'histoire familiale, c'est nos gènes, ça. C'est ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Il y a certains facteurs de risque. On a dit modifiables, la tension artérielle, glycémie, cholestérol. Oui, c'est modifiable par la diète, mais pas chez tout le monde et pas à même degré. C'est vraiment l'interjeu de ce qui est l'environnement, de ce qui est la génétique. J'ai appris beaucoup là-dessus il y a quelques années avec les études avec Daniel Godet et son équipe, et M. Bouchard, avec les généalogies qui sont construites de notre population ancestrale à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que les ancêtres ont voyagé le long de Saguenay et de Charlevoix, les premières 300 personnes, et ça s'est expandu à une population de 300 000 actuelles. La grande majorité sont computérisées avec les généalogies, avec les certificats de naissance et de mortalité à partir de 1608. C'est un patrimoine extraordinaire. C'est dans cette population que nous avons regardé l'hypertension. Je vais vous juste donner comme exemple. Première chose que vous regardez quand vous essayez de voir qu'est-ce qui est génétique, qu'est-ce qui est environnemental, c'est que vous regardez la héritabilité. C'est-à-dire que vous regardez dans une famille où l'hypertension court comme une pathologie fréquente, et vous faites la comparaison entre les familles qui ont génétiquement hypertension et la population générale environnante. La population générale environnante dans cette diapo-là est en gris et la population des Canadiens français que nous avons choisi pour présente familiale de l'hypertension en rouge. Et vous voyez que l'hypertension en gris augmente dans la population, la prévalence d'hypertension augmente dans la population générale et pour 60 ans, c'est 40 % des gens sont hypertendus. Est-ce que c'est différent dans les familles qui ont le gène pour l'hypertension? Dans les familles où on dit que c'est familial. Mais ça, c'est la partie rouge. Et vous voyez, à l'âge de 60 ans, c'est à peine double. Donc, la partie génétique, c'est la partie qui excède ce qu'il y aurait même dans n'importe quelle famille, c'est à peu près double de fréquence d'hypertension. Mais regardez chez les jeunes personnes, un frère ou sœur, de 20 ans, de 30 ans, s'il est hypertendu, son frère ou sœur a 25 fois plus de chances d'être hypertendu. Ça, c'est la génétique. D'autre chose que ce diapo dit, c'est plus facile de regarder la génétique chez les gens plus jeunes, parce que même les maladies à une apparition tardive ont une prévalence chez les jeunes aussi, moins fréquente, mais là, c'est vraiment génétique. Chez les gens plus vieux, c'est un peu trop tard chercher la génétique parce que l'environnement les a influencés davantage. Et c'est cette balance-là que nous essayons de respecter et comprendre. Est-ce que de cette richesse d'informations familiales, nous pouvons par la suite dire, pour chaque trait, pour chaque composante que nous avons, quelle composante, quelle partie environnementale, quelle partie génétique? Ici, juste seulement quelques exemples. La masse corporelle, l'indice de la masse corporelle, la première ligne horizontale, colonne horizontale, ce qui est vert, c'est génétique. Ce qui est mauve, c'est environnemental. Et vous voyez que ça varie d'une chose à l'autre. Pour la raison que je ne sais pas encore, le pli sous-coutané en arrière de l'omoplate, le gras là est 90% génétique. Et la tension artérielle systolique, c'est à peu près moitié-moitié. La tension diastolique, un peu plus environnementale que génétique. Cholestérol, moitié génétique et moitié environnementale. Oui, la nourriture compte. L'exercice compte, moitié. Donc les gens qui l'ont ça très augmentés et ont besoin des médicaments. Avec, bien entendu, l'exercice et le reste, ça va nous aider. Même le comportement, nous sommes capables présentement de disséquer qu'est-ce qui est génétique. Si vous faites les frères et sœurs de Chicoutimi, vous les mettez devant un écran et vous leur donnez un test qui est suffisamment humiliant parce qu'il devient de plus en plus complexe, s'ils sont bons, et vous regardez la tension artérielle. Les frères répondent de même façon. Les frères obèses répondent de même façon, différents des frères qui sont maigres. Et tout ça, en étudiant suffisamment de personnes, nous a donné une possibilité de comprendre que le stress, l'obésité, et la réponse à stress mental ou stress physique, plus l'alcool et la cigarette, sont liés génétiquement. Et tous ces gènes-là font une partie des gènes qu'on est capable maintenant de solutionner de façon informatique. Et c'est des gènes qui transmettent le signal sur la terminaison nerveuse. En fait, c'est d'une complexité extraordinaire. Et on se rend compte dans cette complexité que les gènes de diabète, ce n'est pas seulement les gènes de diabète ou les gènes de complications cardiovasculaires de diabète, c'est aussi des gènes immunitaires, les gènes inflammatoires. Tous nos préjugés de séparation dans la médecine à tel domaine, à telle discipline, ça vaut rien. Ça va être tout à repenser parce que les gènes communiquent les uns avec les autres. Ce que nous voulons en fait, c'est de voir pour quel individu, quelle sorte de gène compte. Cette idée-là a commencé il y a plus qu'un siècle par Archibald Garrow. C'est lui qui a dit un gène, une maladie. Et il s'est rendu compte que certains médicaments fonctionnent chez certaines personnes et le même médicament n'a aucun effet chez d'autres. 100 ans plus tard, ceci c'était le début de la médecine personnalisée. 100 ans plus tard, une compagnie a développé un médicament pour les métastases de cancer du sein. Le premier essai, un échec monumental. Médicament interdit. Les chercheurs ont réalisé que ça pourrait priver 30% des femmes qui avaient un bénéfice. Son artère du médicament, c'est un désastre. On cherchait pourquoi les 30% des femmes avaient un bénéfice et on trouvait que les femmes chez qui le médicament fonctionnait avaient un récepteur R2 sur leur cellule de leur cancer. Depuis, ceci est un compagnon diagnostic. Vous testez le cancer et vous administrez le médicament seulement chez les femmes chez qui vous êtes sûr qu'ils puissent avoir un bénéfice. Dans ce temps-là, il y a à peu près 60%. Chez les autres femmes, ça causerait seulement les effets secondaires plus le coût. C'est ça le début de la médecine personnalisée. Ce que nous désirons, ce que nous voulons développer, c'est de changer le paradigme. Médecin, présentement, il fait un diabétique, il lui fait les tests, il va l'avoir au labo, et par la suite, il lui prescrit des médicaments selon les guidelines. Mais ne tient pas compte du patient parce qu'il ne connaît pas sa réponse au médicament. Donc en réalité, il attend l'apparition des complications rénales avant de prescrire un médicament pour cette complication rénale. Ce que nous voulons changer en médecine, c'est de développer suffisamment d'informations sur l'individu qui est en face de docteur pour lui donner des conseils chez qui prescrire ce médicament-là avant l'apparition de la complication. C'est ça la médecine préventive de l'avenir que nous sommes en train de bâtir. En fait, ce que nous voulons, c'est de, par un investissement minimum au début de la maladie, la ligne verte, investir un peu, tôt, avant l'apparition des symptômes, pour retarder l'apparition de la maladie et l'apparition de la dépendance sur le système de santé, etc. Pas seulement de prolonger la vie, mais d'allonger la vie autonome, la vie de capacité de travailler, mais aussi la vie autonome. Les problèmes éthiques de tout ceci ne sont pas résolus. Est-ce qu'on va discriminer des gens quand on va savoir quel génome qu'ils ont, quelle susceptibilité qu'ils ont? Est-ce que ça va leur enlever l'assurabilité? Il y a toutes sortes de réactions dans la population. Il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir pour que leurs enfants ne soient pas affectés par les problèmes d'assurabilité. Et ceci n'est pas résolu. Comme nous ne sommes pas encore prêts d'impliquer ceci en toute la santé, parce que nous n'avons pas encore fait des essais cliniques dans lesquels nous démontrons que la partie diagnostique fonctionne, à part de quelques exemples, une douzaine présentement, surtout dans le domaine du cancer. En fait, en somme, c'est pas les gènes, c'est nos choix individuels, c'est notre environnement qui, l'ensemble, doit être analysé. Et nous allons avoir la capacité de nous connaître mieux pour mieux nous soigner, pour mieux prévenir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci. Alors, voilà, on va passer à la deuxième intervention, celle de Maître Mélanie Bourassa-Forcier, qui est professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.
Donc, vous avez mentionné, Dr Hamet, que les soins de santé personnalisés, en fait, on ne parle pas juste de génétique, puis on doit... Est-ce que ça fonctionne bien? On doit absolument faire un lien, en fait, entre génétique et éthique, et il y a une réflexion qui doit être amorcée. Puis je vous dirais que... cette réflexion-là doit être suscitée un peu par des enjeux légaux et le résultat de la réflexion devra être encadré légalement. Donc, c'est très pertinent de regarder quels sont les enjeux légaux qui sont liés aux soins de santé personnalisés. Et puis, on m'avait demandé de présenter de façon incidente quelques commentaires en ce qui concerne les enjeux économiques lié aux soins de santé personnalisés, ce que je ferai de façon peut-être un peu plus rapide par ailleurs. Donc, Je vais vous expliquer ma perception dans des termes de juriste non scientifique de ce que sont les soins de santé personnalisés. Vous l'avez mentionné, c'est en fait, puis le docteur Doucet va le mentionner aussi, c'est, lorsqu'on parle de soins de santé personnalisés, la terminologie est peut-être pas la bonne en fait, parce que de façon traditionnelle, les soins ont toujours été personnalisés. Donc peut-être qu'on devrait adopter une terminologie qui est différente pour parler peut-être plus d'une médecine stratifiée. Donc, à quoi servent les soins de santé personnalisés? Nous allons garder cette terminologie pour les fins de la conférence ce soir. Les soins de santé personnalisés ou les tests diagnostiques peuvent servir à déterminer une prédisposition génétique à développer une maladie. Par exemple, les risques que je développe l'Alzheimer, les risques que je développe un cancer du sein lié à un prélèvement génétique. Les tests diagnostiques peuvent aussi servir à déterminer ma réponse à un traitement. Vous l'avez indiqué. Lorsque il y a des gens qui sont atteints du cancer et qui se soumettent à des études cliniques, on peut vouloir faire des prélèvements génétiques pour évaluer leur capacité de répondre au traitement qui sera utilisé. De cette façon-là, on peut exclure les participants qui ne répondront pas au traitement. C'est un peu la même chose en pratique clinique. Et finalement, les soins de santé personnalisés ou les tests diagnostiques, le prélèvement d'informations génétiques peut être utilisé, mais sur la base d'une analyse de différents virus, par exemple, dans les centres hospitaliers, lorsqu'on est en présence d'infections nosocomiales, par exemple, ça peut être pertinent d'évaluer l'origine de la souche pour mieux adapter le traitement. Donc, c'est un autre volet des soins de santé personnalisés qui peuvent être pertinents, mais qui sont pas, qui est pas abordé là, ce soir dans la présentation. Donc, les enjeux légaux. Il faut savoir qu'il existe deux types de tests diagnostiques. Bon, en fait, c'est des tests qui sont tous destinés à évaluer le profil génétique des individus. Mais il existe des tests qui sont disponibles pour la vente qui est directe au consommateur, c'est-à-dire que le consommateur peut se rendre en ligne sur Internet. Et par exemple, il y a un site qui s'appelle 23andMe, il y a une offre d'un test diagnostique qui permet, en fait, lorsque le consommateur le reçoit, de faire le profil génétique, puis on peut donner la réponse qui survient à la suite de ce test-là. Ça peut être très variable, ça peut être la disposition génétique d'un individu à développer une maladie qui peut être importante, comme par exemple l'Alzheimer, mais ça peut être aussi sa prédisposition à développer un problème de calvitie. Donc, c'est très, très, très variable ce qui est disponible sur Internet. On parle donc de tests qui sont vendus directement aux consommateurs. Ça peut être via des sites Internet canadiens, mais des sites Internet américains aussi. Ça veut dire que ce qui est vendu sur des sites Internet américains, c'est des tests qui ne sont pas approuvés par Santé Canada. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que ces tests sont fiables et sont de qualité? L'autre type de tests sont des tests qui sont qualifiés de tests maison. On peut à ce moment-là penser que c'est des tests qu'on fait chez nous à la maison, mais c'est pas le cas. C'est des tests qui sont en fait effectués en laboratoire. Donc, vous allez voir votre médecin, il vous demande de passer un test sanguin. Vous vous rendez à l'hôpital. L'hôpital fait le prélèvement sanguin, envoie le tout pour analyse dans un laboratoire. Donc, on parle alors d'un test maison. Et la qualité de ces tests-là, la fiabilité de ces tests-là n'est pas évaluée par Santé Canada, parce que Santé Canada, c'est l'organisme qui évalue la sécurité et l'efficacité des médicaments et des outils médicaux qui sont vendus directement aux consommateurs. C'est plutôt le gouvernement du Québec qui va évaluer la fiabilité de ces tests maison en regardant notamment la conformité des laboratoires qui les font. Donc, premier enjeu, qualité, efficacité des tests. Deuxième enjeu, légal. Quel est le droit des assureurs d'utiliser l'information génétique qui découle des tests diagnostiques? Donc ici, c'est une petite image où en fait un assuré ou un assuré potentiel se rend chez son assureur et puis vraisemblablement il veut une assurance. Puis là, l'assureur dit oui, mais là vous avez une prédisposition à développer du diabète, de l'obésité. Donc évidemment, on peut comprendre qu'il y a des risques. Que sa prime d'assurance augmente compte tenu de sa prédisposition à développer certaines maladies. Donc, il existe un principe qui est reconnu en droit, c'est la confidentialité des dossiers médicaux. Donc, toute l'information qui se retrouve dans votre dossier médical, elle est confidentielle. Et il y a d'ailleurs un engagement de la part de l'Association des assureurs privés du Canada qui est à l'effet que les assureurs privés n'utiliseront pas l'information, en fait, n'accéderont pas ou n'exigeront pas d'un assuré de subir un examen diagnostique ou un test génétique, sauf dans certaines circonstances bien spécifiées. Par contre, il faut aussi savoir qu'il existe un autre principe en droit qui est à l'effet que tout candidat à l'assurance a l'obligation de révéler tous les renseignements pertinents à l'évaluation des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assureur ne peut pas aller voir votre dossier médical, mais si vous savez que vous avez une prédisposition à développer une maladie telle un cancer, bien là, vous devez normalement dévoiler ce fait à l'assureur si vous considérez que c'est un risque. Et le défaut de dévoiler de telles informations, ça peut tout simplement entraîner la perte ou l'annulation de votre assurance. Il faut savoir que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec prévoit spécifiquement que l'utilisation de renseignements sur l'état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une pratique discriminatoire. Ce que ça veut dire, que l'assureur qui a une information sur votre état de santé peut, en fonction de cette information-là, créer une variation, par exemple, dans les primes ou vous exclure de l'assurabilité. Mais la question est, est-ce qu'une information génétique sur votre prédisposition à développer une maladie est une information relative à votre état de santé présent? Je vous laisse y réfléchir. Autre enjeu, c'est très bref parce que je veux vraiment parler de tout ça, mais on pourra discuter par la suite. Le devoir d'information du médecin. Un principe reconnu en droit civil, toute personne est inviolable et a droit à son intégrité, sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. Ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, en tout temps, lorsque j'accepte un traitement ou lorsque je me soumets à un test génétique ou j'accepte que de me soumettre à un test génétique, je dois le faire en toute connaissance de cause, en donnant un consentement libre et éclairé. Je dois connaître les informations je dois savoir ce qu'implique ce test. Le devoir d'information du médecin varie présentement lorsqu'on parle d'un médecin qui est un médecin chercheur, donc à l'étape des essais cliniques, ou un médecin qui exerce en pratique clinique. En matière de recherche, il existe beaucoup de normes qui encadrent la recherche clinique, donc les orientations sont très claires. Aussi, on parle généralement de sujets qui se soumettent à des études cliniques sans nécessairement pouvoir envisager un bénéfice pour leur santé. Donc, c'est ça pourquoi il y a un encadrement qui est si important. En recherche, le sujet doit être informé de tous les risques, même potentiels. Le sujet doit donner un consentement écrit. Le formulaire de consentement doit indiquer si le sujet pourra ou non recevoir les résultats des tests génétiques. Lorsqu'on parle de tous les risques, ça veut dire notamment le risque que l'information qui découle du test génétique ait un impact sur le caractère assurable du sujet. C'est un risque. En pratique clinique, c'est-à-dire pas en phase de recherche, mais lorsque le médecin traitant suggère un test diagnostique à son patient, le patient doit être informé des risques réels pour sa santé. Ça veut dire les risques minimes de développer une maladie X surtout lorsqu'il existe plusieurs gènes qui peuvent être liés au développement de cette maladie. Donc, la fiabilité de l'indication de la prédisposition est aléatoire ou est peu certaine. Peut-être que c'est quelque chose que le médecin n'aura pas à divulguer. Le patient peut donner le patient peut donner un consentement verbal, donc qui n'est pas nécessairement écrit, et le formulaire de consentement peut viser la réception de toute information relative au patient. Donc, les questions qui se posent. Le patient ou le sujet de recherche, lorsqu'il se soumet à un test diagnostique, sait-il toujours à quoi il consent? Sait-il toujours qu'il pourra recevoir de l'information sur sa prédisposition à développer certaines maladies? Et sait-il qu'est-ce que ça implique que de recevoir cette information-là? C'est de l'information qui peut aussi toucher les membres de sa famille. Hein? Si c'est une prédisposition génétique qui est de nature familiale et qu'il y a des risques que des membres proches de sa famille aient la même prédisposition génétique, qu'est-ce que le patient fait avec cette information-là? Est-ce qu'il en informe les membres de sa famille? Est-ce qu'il a l'obligation d'informer les membres de sa famille? Le médecin doit-il informer le patient d'une prédisposition génétique pour laquelle il n'existe pas de traitement et qui pourrait ne pas se matérialiser? Par exemple, est-ce qu'en faisant un test génétique, mais je sais que lorsqu'on cherche quelque chose, à la suite, par exemple, d'un prélèvement sanguin, lorsque l'on cherche une prédisposition particulière à développer une maladie particulière, c'est très rare qu'on pourra trouver d'autres informations. Mais si on trouve d'autres informations, par exemple, la prédisposition d'un individu à développer la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on l'informe? Alors qu'il n'existe actuellement pas de traitement. Mais peut-être y aura-t-il un traitement dans 5 ans? Mm-hmm. Certaines réponses. À notre connaissance, il n'existe actuellement aucun précédent relativement à la responsabilité du patient de partager l'information qu'il reçoit avec les membres de sa famille. Le médecin a le devoir de protéger la santé des individus qu'il traite, mais aussi il doit penser au bien-être collectif. Le médecin doit envers la famille du patient respecter son obligation de confidentialité, évidemment, ce qui veut dire que le médecin, normalement, ne devrait pas aviser les membres de la famille du patient, si là on parle d'une prédisposition génétique de nature familiale. Sachez qu'il existe des exceptions à ce principe et c'est essentiellement la présence d'un danger imminent pour les membres de la famille. Maintenant, les enjeux économiques. Il existe des enjeux économiques qui sont liés aux tests diagnostiques. Il faut savoir que les tests diagnostiques, qui sont des tests maison, qui sont effectués dans les laboratoires à la suite de l'envoi du test par le centre hospitalier, ces tests-là sont remboursés par l'assureur public, par la RAMQ. Donc, tous les tests qui sont effectués en centre hospitalier sont remboursés. Ils ne sont pas remboursés lorsqu'ils sont effectués en clinique privée, puis évidemment, ils ne seront pas remboursés non plus lorsqu'on parle de tests vendus directement aux consommateurs. Donc, nécessairement se pose la question de la capacité financière du gouvernement à assumer ces tests. Le coût de ces tests. Le Dr Hamet l'a mentionné, je vais passer rapidement sur ce point. Lorsqu'on parle d'enjeux économiques, c'est important de se questionner non seulement sur les coûts, mais sur les économies. Donc, si le fait de faire systématiquement des tests diagnostiques pour pouvoir éviter de prodiguer un traitement qui serait inutile pour le reste de la vie d'un individu, peut-être qu'il y a des économies là à réaliser. Je reviens aussi sur ce que le Dr Hamet a mentionné. Les réactions indésirables à un médicament sont dues dans près de 50% des cas à des variations des génétiques. Donc, on peut voir ici des économies à la suite de l'utilisation des tests diagnostiques. Je passe rapidement sur les bénéfices et les coûts. Il faut savoir qu'il y a des bénéfices et des coûts, évidemment, pour le système de santé. La problématique est que les bénéfices qui sont assez visibles pour le système de santé ne sont pas apparents pour les établissements et c'est les établissements qui assument le coût des tests diagnostiques parce que les établissements ne vont pas bénéficier du fait qu'il y aura moins d'individus, en fait, du fait qu'un individu ne va pas va pas avoir besoin de traitement additionnel parce qu'il aura fait un test génétique, parce que les établissements, il y a des listes d'attente, il y a toujours des gens qui sont là pour se faire traiter. Donc, les économies ne se font pas ressentir au sein des établissements. Il y a évidemment des bénéfices et des coûts pour les patients, des bénéfices qui sont évidents. Il y a des coûts aussi, des coûts liés à des consultations qui suivent, par exemple, l'identification d'une prédisposition génétique à développer le cancer. Il va s'en suivre des consultations, mais le patient, peut-être qu'en bout de ligne, ne développera jamais la maladie. Donc, il faut penser à ces coûts. Donc, ici, c'est une petite note, puis je reviens sur ce que je viens de vous mentionner. L'établissement de santé ou la RAMQ qui assume les coûts directs liés aux soins de santé personnalisés sans que ces coûts ne soient compensés par des bénéfices directs sera réticent à s'engager pleinement dans cette voie sans la collaboration financière de l'État. Donc, il faut vraiment avoir une analyse globale des coûts et des bénéfices. Il faut qu'il y ait des redistributions budgétaires, nécessairement. Les solutions pour faciliter l'accès aux tests diagnostiques, des ententes avec les fournisseurs, la responsabilisation du patient, le suivi des bénéfices économiques, parce que présentement, on sait que certains tests sont très utiles, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont présentement développés. La majorité, en fait, 50 % des nouveaux médicaments seront commercialisés avec un test diagnostique. Donc, il faut s'assurer que ces tests-là sont fiables et sont bénéfiques au niveau économique. La formation continue des professionnels. Je lisais, il y a quelques temps, une étude où il était mentionné que plus de 75 % des médecins n'ont pas eu de formation sur comment interpréter des résultats génétiques. L'encadrement législatif des droits des assureurs, et je vous laisse réfléchir quant aux autres solutions. Merci.
Merci, merci beaucoup, Maître Bourassa Forcier. Hubert, je vous en prie, c'est à vous. Monsieur Doucet.
Bonsoir. Je ne suis pas un spécialiste, ça va venir. Je sors d'une bronchite et quand je commence à parler, c'est difficile. Mais ça vient. C'est la rançon du vieillissement, n'est-ce pas? Je ne suis pas une personne qui est spécialisée dans l'éthique de la médecine personnalisée. Même pendant un certain nombre d'années, je me sentais un peu mal à l'aise avec le type de réflexion éthique qui se faisait, parce qu'il s'en fait beaucoup, qui se faisait autour de la génomique, la génétique. Je trouvais ça un petit peu fermé comme type de réflexion. Mais jusqu'au jour où je suis invité à participer à une recherche en médecine personnalisée, d'être un des chercheurs. Et le type de projet qui était fait m'intéressait beaucoup. Et depuis ce temps-là, j'ai vécu de l'intérieur une recherche de médecine personnalisée. C'est ce dont je vais d'abord parler. Par la suite, je vais essayer de réfléchir sur le concept de médecine personnalisée. Mélanie vous l'a déjà annoncé que j'allais parler sur cette question-là. Essayer de montrer aussi que sur un plan éthique, il faut voir qu'il y a une contribution de la médecine personnalisée à la santé, mais qu'il y a aussi des défis. Et quels sont les défis qui se posent, mais surtout comment aborder ces défis-là dans la société. Donc, c'est les quatre points que je vais aborder. Premièrement, j'ai participé à une recherche de médecine personnalisée dans l'intérieur d'un groupe de recherche interdisciplinaire sur les prédicteurs du risque immunologique pour les patients attendant greffe rénale. On n'était pas directement dans le médicament, mais on était quand même dans le domaine de la génétique ici. On n'a jamais été capable de trouver un acronyme qui allait rendre plus court ce truc-là. Et comme on n'a plus d'argent parce qu'il n'y en avait plus au FRSQ, donc c'est tombé. Donc, et l'objectif de ce projet, c'était de déterminer, de trouver une méthode déterminant avec précision le risque immunologique global de rejet de chaque patient qui avait besoin d'une transplantation rénale. Et la question Les chercheurs qui voulaient intégrer l'éthique à leur recherche disaient, nous, on a vraiment une préoccupation éthique, et c'est pas de restreindre l'accès de la transplantation aux meilleurs receveurs, donc parce qu'on pourrait croire que si on détermine avec précision le risque, on va choisir les meilleurs. Notre objectif, c'est d'essayer de contourner le risque avec des gestes adaptés. Et c'est là que, disait-il, on a besoin de l'éthique pour nous aider à faire ce travail-là. Donc, il y avait des fondements éthiques au projet, donc viser un processus de sélection plus juste des receveurs. Donc, de quelle manière viser une sélection plus juste? À travers plus de science et moins de hasard. Et on développait une démarche centrée sur le patient, puisqu'il s'agissait d'adapter la thérapie immunosuppressive en fonction des aspects biologiques, cliniques et sociaux du patient. Donc, on n'est pas centré uniquement sur le médicament, mais on essaie de rejoindre, se préoccupe de toute la personne dans son contexte et de manière à viser une meilleure utilisation de la ressource. Donc, les questions éthiques qui se posaient dans ce projet, c'est comment maximiser l'efficacité de la greffe avec l'équité dans l'accès. Est-ce que l'emploi de critères uniquement scientifiques ne conduirait pas à favoriser l'exclusion des patients et non pas l'inclusion? Donc, mais là, c'est une question qu'on pouvait se poser. L'objectif des chercheurs étant de viser l'inverse. Mais c'était quand même une question. Une autre question, est-ce que les données scientifiques ne risquent pas d'évacuer le patient et son histoire personnelle en se centrant uniquement sur la dimension un risque génétique? Et quel est le juste équilibre entre l'utilisation de données objectives scientifiques et celle de données qualitatives? Parce qu'aujourd'hui, les néphrologues et les transplanteurs se réunissent pour décider est-ce qu'on va transplanter cette personne, de nombreuses discussions se font non pas simplement sur la dimension scientifique, mais sur la personne, qui elle est, quelle chance elle a, comment elle va réagir. Et beaucoup de néphrologues, transplanteurs, se posent des questions, d'ailleurs, autour de la médecine personnalisée telle qu'elle semble, vers laquelle on s'en va, en disant, est-ce qu'on n'exclura pas les données qualitatives? Et ce sont les transplanteurs eux-mêmes, les cliniciens, qui se posent ces questions. Et donc, question éthique, quelle est la place accordée au jugement clinique dans la médecine personnalisée? Et quelle place accorder à la relation médecin-patient dans cette nouvelle approche? Voilà les questions éthiques qu'on s'est posées dans notre recherche, en même temps qu'il y avait toutes les autres dimensions de la recherche qui se faisaient. C'est un projet qui a duré quand même 5 ans. D'abord, j'en arrive au deuxième point. Est-ce que le concept de médecine personnalisée est une expression appropriée? Ce que fait la médecine depuis des millénaires, c'est la définition que donne le document de consultation que vous avez pour définir la médecine personnalisée. C'est proposer des interventions sur mesure en fonction des caractéristiques propres des patients. C'est ce que cherche la médecine depuis des siècles. Et vous remarquez aujourd'hui, justement, la bronchite que j'ai, qui est peut-être liée à d'autres problèmes que des bronches, les deux médecins que j'ai vus, deux spécialistes, m'ont dit, t'essayes ça comme ça, puis tu l'essaies comme ça, tu vois les résultats, et c'est là que tu vas te donner toi-même la posologie adaptée des médicaments que l'on te donne. Alors, vous voyez, c'est de la médecine très personnalisée ici, et qui est de plus en plus personnalisée dans ce sens-là, d'ailleurs. Et aussi, je crois qu'il y a des efforts considérables qui sont faits dans les soins de santé aujourd'hui et en médecine pour rejoindre la personne dans sa globalité. non pas le seul organe malade, mais le patient. Et le prendre soin, surtout dans le domaine des soins infirmiers, hein, on a développé toute une approche autour du prendre soin, le care, c'est certain, l'humanisation, etc. Ce sont toutes des préoccupations qui appartiennent à la médecine d'aujourd'hui et pas seulement à la médecine personnalisée, telle qu'on l'a définie. Et ces efforts qui sont faits sont, je crois, d'un autre niveau que ceux de la médecine personnalisée. Je reviens là-dessus ici. Le risque, me semble-t-il, non pas de la médecine personnalisée, encore ici, c'est le risque du concept. C'est d'entendre comme un cri de victoire, enfin, nous avons la médecine personnalisée. Cette espèce de formule choc de dire, c'est ça la médecine personnalisée, alors que tout l'effort qui est fait de personnaliser la médecine, qui risque d'être exclu de ce débat, parce que le mot médecine personnalisée va prendre tout l'avant-scène. Et le risque aussi, c'est le moyen nouveau nous laisse entendre que le moyen, parce que la médecine personnalisée telle qu'elle nous est présentée, et c'est quand même, c'est un moyen en vue d'atteindre une fin. Et le risque, c'est que le moyen soit vu comme la fin. Et parce qu'il y a une tendance aussi depuis les débuts, surtout de la génomique, que je suis ça un peu, il y a une tendance qui n'est pas fausse de réduire la personne à ses gènes, même si les gènes occupent une place absolument importante, comme on le voit ce soir. Mais il n'y a pas que les gènes, il y a l'environnement. Bon. Et le concept favorise cette tendance à réduire la personne. Concept de médecine personnalisée favorise cette tendance à réduire la personne à ses gènes. En résumé, sur le concept de médecine personnalisée, moi je crois que l'expression réduit la personne à sa biologie, à son individualité biologique. Et je crois que l'identité personnelle est beaucoup plus large et que l'histoire d'une personne ne se résume pas à sa biologie. Et un patient, ce n'est pas la somme de ses données scientifiques. Et lorsqu'un patient va voir un médecin, il est autant préoccupé de ses données scientifiques que de la dimension maladie qu'il peut vivre, quelles sont les implications pour sa vie, etc. Et c'est de ça qu'il très souvent voudrait parler d'ailleurs à son médecin. C'est de l'histoire qu'il est en train de vivre autour de sa maladie et qui va bien au-delà de ses données scientifiques. Donc, ma critique que je fais du concept, ce n'est pas, encore une fois, une critique de la démarche scientifique de la médecine personnalisée, c'est une critique du concept. C'est pour ça que j'ai tenu dans un autre point à dire, non, il faut faire ressortir que la médecine personnalisée apporte quelque chose au travail qui est fait dans notre société pour améliorer la santé. Je ne voulais pas, je vais faire une critique aussi de cette démarche, je vais faire ressortir la contribution. Parce que les interventions médicales mieux ciblées ont pour effet de réduire les effets secondaires des médicaments, on nous l'a bien expliqué, et au fond, on peut faire un bon dosage sans passer par le système d'essais et d'erreurs qu'on nous a décrit. Un autre aspect aussi, je crois, c'est que les patients risquent, c'est pas un risque, c'est un avantage, vont probablement être plus fidèles à leur thérapie. Parce qu'on va avoir détecté de manière précoce la maladie, ils vont avoir une vision globale de l'histoire qui est à venir, de leur maladie, des possibilités, etc. Donc, une vision globale de la maladie, du pronostic, des soins requis, et donc les patients seront, me semble-t-il, plus fidèles et plus responsables, en quelque sorte, à partir de cette médecine-là. Donc, plus grande responsabilité des patients. Est-ce que cette médecine personnalisée, c'est un nouveau paradigme? Est-ce que c'est une révolution? Je reviens à ma critique toujours du langage et de l'esprit derrière le langage aussi. Oui, c'est vrai que ça peut, c'est un nouveau paradigme, mais c'est un paradigme qui est dans l'esprit des progrès médicaux modernes. Dans ce sens-là, ce n'est pas une révolution, c'est une continuité dans les changements qui sont apparus avec le 17e siècle, avec le rêve de Bacon au 17e, René Descartes aussi, d'une médecine efficace et d'une médecine qui ferait qu'on ne vieillira pas. Et si on vieillissait un peu, ça serait en santé quand même. Chez Descartes, c'est aussi intéressant que le discours de la méthode, que cette dimension de Descartes. Et c'est, malgré le fait qu'on va me dire « non, 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 c'est pas vrai », moi je dis, c'est paradoxalement, c'est très proche des données probantes. C'est vrai que ça apparaît à l'inverse, puisque les données probantes, on veut le plus grand nombre de cas, et ici on s'adresse à la personne, mais c'est le même esprit. On veut la certitude, une situation universelle, ça va s'appliquer à ce patient. C'est la même volonté d'assurer la certitude dans les deux cas. C'est dans ce sens-là. Puis je trouve que c'est paradoxal de notre côté. Et ça correspond bien, ce n'est pas un nouveau paradigme, ce n'est pas une révolution, parce que ça correspond à l'âme de la biomédecine. La biomédecine, moi je crois, est habitée d'idéaux humanistes. On critique beaucoup la médecine science. Non, je dis, c'est plein d'idéaux humanistes dans la médecine depuis Bacon, depuis Descartes. Et au fond, toute la médecine moderne est née d'une volonté de bienfaisance, hein, d'améliorer la qualité de la vie des individus. Et au fond, de réduire la limite que représente la maladie. Et ça, c'est extraordinaire comme dimension de bienfaisance. Et aussi, si on diminue ou on abaisse la limite, qu'est-ce qu'on fait? On promeut la capacité des gens qui sont malades et en améliorant leur sort, on promeut leur capacité de se prendre davantage en charge. Et ça, la médecine actuellement, surtout avec toutes les maladies chroniques, c'est une volonté, hein, que les patients se prennent davantage en charge. C'est ce qu'on appelle dans le grand dictionnaire de la langue française du Québec, là, l'autonomisation. Probablement, vous connaissez ça sur le mot « empowerment ». Et l'idée de justice, c'est un progrès pour tous qui est visé là-dedans. Donc, voilà. Est-ce que la médecine personnalisée y parvient? À quel point? On peut se poser des questions, mais elle est habitée par cet idéal. Les défis, je ferai une analyse à deux volets. Je crois qu'autour des données génétiques, vous allez voir une grande diapositive dont je ne parlerai pas, je veux simplement dire qu'il me semble que là, sur le plan éthique et légal, il y a eu beaucoup de travaux de fait. Mais je voudrais parler de notre expérience des développements biomédicaux. On parle beaucoup de victoire sur la maladie dans la médecine personnalisée et dans tout l'idéal de la médecine scientifique contemporaine. On oublie trop souvent les effets secondaires de ces développements des grandes victoires. Au fond, les grandes victoires de la médecine ne sont souvent que des demi-victoires, puisque ce qu'elles créent, ce sont beaucoup la maladie chronique. Au fond, nos hôpitaux sont pleins de malades chroniques. On avait rêvé d'une médecine qui guérirait, mais ce n'est pas une médecine qui guérit. C'est une médecine qui prolonge, qui permet de vivre, etc. Donc, on ne peut pas perdre de vue. Est-ce que la médecine... ça, c'est une question que j'aurais à poser à Dr. Hamet, puisque c'est tout à l'heure, il nous a comme dit qu'on allait trouver, enfin, la solution. Donc, on allait guérir. Alors là, j'ai un petit problème, puisque l'histoire nous montre qu'on n'a jamais vraiment guéri. Et l'autre chose, c'est qu'à mesure, ça crée de nouveaux défis. Et je veux bien qu'on guérisse en bonne santé. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux? Et toute la biogérontologie qui se développe, au fond, c'est quoi les conséquences au plan de la vie en société, de tous ces développements extraordinaires que l'on va faire. Ça, c'est des choses que l'on n'a pas suffisamment regardées. D'autant plus que nos systèmes, comme on l'a dit d'ailleurs au début, sont au bord de l'éclatement grâce au progrès. Donc, en guise de conclusion, je crois qu'il faut analyser la médecine personnalisée comme une médecine moderne, avec ses forces et ses faiblesses. Et non, c'est ça. Et comment on va le faire? C'est en faisant une analyse éthique hors silo. On dirait presque hors médecine personnalisée, mais avec la médecine personnalisée, dans une véritable interdisciplinarité où les sciences sociales vont jouer un rôle essentiel. Ce qu'on pourrait appeler aussi les sciences culturelles vont jouer un rôle essentiel. Et le mécanisme central, je crois que ce sont les délibérations citoyennes, ce que fait la Commission et ce qui devrait se développer davantage autour de toutes ces questions. Merci.
Merci. Merci beaucoup, Hubert Doucet.